Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Monsieur Hervé de Carmois pour sa nouvelle parution « Où va l'Amérique d'Obama ?» dont le prologue a été confié à Alexandre Adler, un ouvrage qui vient de paraître chez PUF de 189 pages pour 18 euros. Cher Hervé de Carmois, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous présenter dès sa parution ce nouvel ouvrage, qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des ouvrages précédents que vous avez fait paraître et pour lesquels nous avions accueilli ici. Et notamment, je veux parler de Leur Amérique, qui était paru chez PUF aux Presses universitaires de France en 2007.
En 2007, voilà. Tout à fait.
Alors, cette fois-ci, vous récidivez, mais vous allez plus à fond, si je puis dire, et dans l'actualité, sur ce sujet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Et on peut dire qu'avec cette parution très attendue, vous créez l'événement de cette rentrée littéraire économique.
Écoutez, merci. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi parler encore de l'Amérique ? Et la réponse est simple, c'est que l'Amérique est l'élément déterminant dans les quelques années qui viennent, je pourrais même dire dans les quelques mois qui viennent, pour comprendre les risques et opportunités sur le plan économique, monétaire et financier.
Alors, on va rappeler quand même un petit peu votre parcours, pour ceux qui ne l'auraient pas complètement en tête. Vous êtes un grand banquier, comme on dit, puis vous avez passé 30 ans dans des postes les plus élevés des grandes banques internationales, la Chase Manhattan Bank, ainsi que la Midland, la Générale de Belgique à Bruxelles. Vous avez été en charge dans une banque d'investissement comme associé gérant, et vous êtes maintenant le président en charge du conseil de surveillance d'ETAM et membre actif de la commission trilatérale dont vous avez été le vice-président pour l'Europe de 2004 à 2010. Un mot sur Alexandre Adler.
C'est un très grand journaliste, c'est un très grand esprit. C'est lui qui, il y a presque 2 ans, m'a dit « Hervé, veux-tu que nous fassions ensemble un livre sur l'Amérique ?» J'ai dit oui, puis il est tombé gravement malade. Il s'est totalement remis. Et je lui suis à la fois reconnaissant d'avoir pris l'initiative et d'avoir fait le prologue du livre.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Justement, Alexandre Adler dit de cet ouvrage un diagnostic sévère mais optimiste. Alors, vous êtes un grand ami de l'Amérique et un ami confirmé du peuple américain. Vous êtes très expérimenté sur le sujet. Alors, quel est ce diagnostic sévère mais optimiste?
Écoutez, la sévérité se juge à l'aune de savoir est-ce que l'Amérique, depuis 5 ans et dans les 5 ans qui viennent, est-ce que les Américains vont prendre les mesures qui s'imposent dans plusieurs domaines? Alors, le premier domaine qui nous concerne, nous, Européens, c'est la finance. Or, que voit-on ? Que l'Amérique s'est mis à réglementer d'une façon très rigoureuse les banques classiques, telles que la City, telles que la Chase Morgan, mais qu'elle a laissé de côté, sans le réglementer, un immense pan financier qu'on appelle la banque de l'ombre, le shadow banking. Et ça représente 2 fois le PNB de l'Amérique, presque 25 000 milliards de dollars, alors que le PNB de l'Amérique est autour de 13 000, 14 000. C'est pas réglementé.
Alors, c'est pas réglementé. Et alors, y a-t-il un espoir, justement, d'avancer sur cette réglementation?
Je ne le crois pas. Je crois que ceux qui sont actifs dans la Banque de l'Ombre sont des hommes et des femmes qui gagnent des sommes faramineuses. Moi, j'étais très frappé que Obama avait annoncé « je vais réglementer la Banque de l'Ombre » et après 3 ans, il a pris sa décision de ne pas le faire. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a besoin de lever pour sa future campagne électorale $1 milliard et qu'il faut des généreux donateurs et que le groupe de pression de la Banque de l'Ombre et de l'activité bancaire est très fort.
Mais cette Banque de l'Ombre, en fait, elle a des ramifications, j'imagine, en dehors du centre américain. Elle touche,
elle touche le monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce secteur que joue la spéculation. Spéculation contre la Grèce, spéculation contre l'Italie, spéculation contre l'euro et spéculation sur les matières premières. Et il faut bien se rappeler que les Asiatiques ont en gros 4 000 à 5 000 milliards de dollars de liquidités, que le Moyen-Orient en a au moins 3 000 à 4 000, et que ces 10 000 milliards de liquidités, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'investissent pas pour l'instant beaucoup dans des emplois productifs de richesse et de travail, ils s'investissent dans la spéculation avec des effets de levier énormes, ce qui fait que vous allez avoir des mouvements considérables. Et quelquefois, ces mouvements vous font perdre de l'argent. C'est ce qui est arrivé à hauteur de plus de 2 milliards de dollars il y a quelques jours à l'UBS.
D'accord. Alors effectivement, ça c'est la face sombre, pour pas dire noire, de l'Amérique. Elle a par contre aussi des forces.
Elle a des forces énormes.
Énormes.
Et comme toujours, les forces, c'est d'abord la population. Elle est en croissance et elle se développe. Il y a de plus en plus d'importations et de venues aux États-Unis.
D'immigration, en quelque sorte.
D'immigration asiatique. Et ces Asiatiques, quand vous allez, moi je reviens du MIT, une des très grandes universités américaines, et je voyais un fils d'ami français qui est étudiant là-bas. J'ai été dans sa classe, et qu'est-ce que je vois? 80% d'Asiatiques.
Ah, d'accord.
Donc c'est très important. Ils sont ouverts.
C'est une société ouverte.
Il faut bien se souvenir que les États-Unis, d'après le classement de Shanghai, ont 22 des 30 meilleures universités dans le monde.
Ce qui est bien évidemment une force...
Une force incomparable qui explique leur créativité scientifique et technologique.
Donc une première force, en quelque sorte, dans laquelle vous croyez, vous en êtes convaincu, c'est sa population, son activité, sa capacité de création, d'innovation. C'est aussi sa démographie.
C'est sa démographie et c'est que l'ensemble du peuple américain veut réussir, est pragmatique, les gens travaillent ensemble, ils ont l'esprit d'initiative et que ces qualités humaines qu'on retrouve à tous les niveaux sont des atouts. Alors, quelle est la contrepartie de cet atout colossal d'une population dynamique qui veut créer de la richesse? C'est qu'au sommet, il y a une cupidité et l'argent fou à des niveaux très élevés. Et que la dimension financière est devenue centrale aux États-Unis. En quelque sorte, le directeur de l'Élysée américain, c'est-à-dire de la Maison-Blanche, est un banquier. La banque et la finance ont un poids considérable sur les affaires américaines. Alors, la deuxième grande force, bien sûr, c'est l'armée et le militaire. Une étude a été faite récemment montrant qu'il faudrait presque 50 ans à la Chine pour rattraper les États-Unis au point de vue militaire, tant leur avance est colossale. Et ils sont avancés pas simplement parce qu'ils dépensent plus, 700 milliards de dollars, soit la moitié du budget mondial de l'armée, mais aussi parce qu'ils se réforment radicalement sur leur méthode de combat.
Alors, autant vous développiez dans vos précédentes parutions cette nécessaire convergence entre l'Amérique et l'Europe, autant sur la Chine, bien que vous ayez participé à la parution du Cercle Turgot, dont vous êtes un membre imminent de la Chine-Amérique.
Je suis honoré d'avoir pu faire ça.
Là, vous êtes plus interrogatif sur le couple Chine-Amérique. Descendant, parce que vous parliez tout à l'heure du rapport de force à travers les armées, mais la guerre aujourd'hui, elle est presque sur un autre plan.
Elle
est économique et financière.
Alors, les Chinois détiennent plus de 2 000 milliards de dollars de créances en dollars. Ils exportent considérablement vers les États-Unis. Ils jouent un rôle important sur la valeur de la monnaie. Ils ont lié le yuan, qui est la monnaie chinoise, au dollar. Et de ce fait, le yuan ne se réévalue pas. ce qui accroît l'endettement extérieur des États-Unis et ce qui accroît la dépendance des Américains sur des importations bon marché en provenance de la Chine.
Et alors, ces règles du jeu nouvelles qui ont été établies dans le jeu mondial, pensez qu'elles vont pouvoir durer encore longtemps? Quel serait le facteur qui pourrait faire que, à un moment donné, l'Amérique ou voire l'Europe disent mais on veut plus jouer avec un partenaire qui a un esprit fortement hégémonique, enfin c'est le moins que l'on puisse dire, un peu mercantiliste et qui, par ailleurs, ne respecte pas toutes les règles du jeu, on va dire entre guillemets, de l'Organisation mondiale du commerce en jouant sur sa monnaie. C'est quand même
une très bonne question. Et à votre question, on va y répondre par une autre question. Est-ce que les Chinois peuvent faire plier les Américains grâce au crédit de 2000 milliards qu'ils leur accordent? Et la réponse est éventuellement. Comment? Eh bien, très simplement, si la Chine augmente ses taux d'intérêt de 1-2%, tous les taux d'intérêt américains vont monter. Et à ce moment-là, vous aurez des banques en très grande difficulté, des compagnies d'assurance, des municipalités, voire même l'État américain.
Alors, vous avez une formule, je disais tout à l'heure que vous avez un talent de plume assez remarquable. Je vais citer une de vos formules en conclusion. L'Amérique a quitté le chemin des croisés pour occuper la croisée des chemins. Il lui appartient en effet, dans l'intérêt général du monde, comme dans le sien propre et celui de ses citoyens, de tourner une page, celle de l'hyperpuissance.
Oui, il faut qu'il reconnaisse que le monde a changé, que les batailles ne se gagnent plus à coups de missiles, de canons et de chars, et donc que leur développement militaire est peut-être exorbitant par rapport à leur capacité économique et à la nécessité qu'ils ont de se défendre. C'est la première croisée des chemins.
C'est la première croisée des chemins. Donc, en 5 chapitres, vous passez en revue ses forces et ses faiblesses, mais globalement, vous restez optimiste dans la capacité de l'Amérique de jouer dans un rôle un peu nouveau, c'est-à-dire un peu moins d'hyperpuissance, mais de toute façon, de superpuissance toujours.
Oui, c'est la première puissance économique. Elle est 4 fois plus importante que la puissance chinoise. Il faut quand même voir ça. Il n'en reste pas moins qu'ils sont à la croisée des chemins. Sur le plan militaire, sur le plan des impôts, ça c'est très important. Il va falloir qu'ils lèvent des impôts sur les plus riches. Ils ne sont pas les seuls. L'Europe devra faire la même chose. Et là, il y a une vraie guerre de religion entre républicains et démocrates.
C'est ce que vous dites de la façon suivante. Je vous cite à nouveau. Cette nation, vous ajoutez, capable d'une alternance Bush-Obama, est aussi une sorte de champ magnétique dont ces deux personnages seraient comme des pôles.
Oui.
Et je crois que cette formule résume effectivement tout à fait ce qu'on a connu tragiquement, je dirais, dans l'actualité américaine récente, au sujet donc de la dette et de l'impossibilité à se mettre d'accord pour trouver un nouveau plafond raisonnable. Alors, c'est une force, bien entendu, cette démocratie à l'état pur, en quelque sorte, mais c'est aussi une faiblesse, semble-t-il.
Parce qu'elle risque de se bloquer.
Voilà, elle risque de se bloquer.
Avec les républicains et démocrates qui, chacun, ont des vues, des programmes différents. Et chez les républicains, il y a une ferveur religieuse plutôt qu'un pragmatisme politique.
Alors, dans votre conclusion, vous proposez de donner des instruments de mesure du progrès interne des États-Unis dans les années à venir. Alors, le premier de ces instruments, c'est un retour aux fondamentaux. Oui. En fait, il faut qu'ils reviennent sur leur base, en quelque sorte.
Il faut qu'ils reviennent sur leur base et se recréent une base industrielle. Ils se sont massivement désindustrialisés parce qu'ils ont pu gagner de l'argent facile par la finance.
Alors, vous réitérez votre croyance dans une nouvelle alliance avec l'Europe, peut-être d'une autre nature?
C'est une alliance qui pourrait avoir une dimension économique beaucoup plus forte. Nous gardons des domaines d'expertise et des laboratoires et des universités remarquables. Nous avons des millions d'Européens éduqués qui parlent parfaitement l'anglais. Essayons de collaborer dans différents secteurs.
Alors, vous avez des formules qui sont tout à fait frappantes. Les auteurs en trouveront de nombreuses expressions. L'Amérique a en elle toutes les ressources nécessaires pour relever au cours de cette décennie les principaux défis auxquels elle est confrontée. L'histoire nous enseigne que les économies et les pays traversent des cycles. Après une phase de destruction de richesses et de délitement éthique, tout laisse à penser que l'Amérique saura se reconstruire. L'Amérique le peut, à terme, elle le voudra. Je crois que là, tout est résumé,
absolument,
l'esprit de cet ouvrage, c'est-à-dire après une analyse absolument sans concession, l'ami du peuple américain reste optimiste.
Il reste optimiste parce que les Américains ont montré tout au long de leur histoire une capacité à se remettre en cause. Alors, il se trouve que la gestation de cette remise en cause est particulièrement douloureuse en ce moment. Et que, à terme, ils ont un immense territoire, ils ne risquent pas des insurrections locales comme les Chinois. Il faut bien savoir que les Chinois ont plus de 80 000 insurrections chaque année, hein, ouais, car le territoire est immense aux États-Unis, donc ce risque est moindre. Et ils ont une volonté de résoudre les problèmes pragmatiquement qui est considérable. Donc, sur le long terme, 10 à 20 ans, j'ai tout à fait confiance que les États-Unis se rétabliront et redeviendront une puissance utile à l'ensemble du monde.
Ce sont des propos qui donnent du baume au cœur dans une période qui est assez agitée. Je ne vous laisserai pas partir sans vous poser une question au moins sur l'actualité. On a vu que les banques sont extrêmement fragilisées. Elles sont fragilisées parce que les États ne se montrent pas persuadés de devoir faire face à leurs engagements. Quel est votre sentiment sur cette sinistrose générale, cette dégradation répétitive et sur cette mise systématique à l'index des banquiers, vous qui êtes un grand banquier?
Écoutez, c'est exagéré. Voilà. Toutes les banques, toute la régulation française et européenne a commis des erreurs. Et en permettant aux banques de développer massivement leur hors-bilan, c'est-à-dire les engagements sur leur bilan. Bien. Ceci dit, les banques en même temps, notamment les banques françaises, je pense à la BNP, au Crédit Agricole et aux banques populaires et au Crédit Mutuel, ont géré avec prudence leurs engagements commerciaux. Bon, il n'en reste pas moins qu'il y a eu 2008. Et qu'avec 2008, les banques ont eu beaucoup d'actifs toxiques, dangereux sur leur bilan. En gros, l'essentiel de ces actifs a été éliminé et les banques continuent à faire des profits qui leur permettent d'amortir. Mais elles ont une activité sur les marchés qui me semble excessive par rapport à leurs fonds propres et qui me semble excessive par rapport à l'utilité économique de la spéculation. Donc, elles vont évoluer. Nous avons une haute administration financière de très grande qualité en France. Nous avons des hommes responsables et un niveau d'intégrité exemplaire. Je pense donc que l'outil financier français va s'améliorer. J'attire votre attention sur une initiative spectaculaire des Anglais qui veulent séparer à l'intérieur des banques la banque commerciale traditionnelle et la banque spéculative de façon à mieux protéger la banque traditionnelle qui fait des crédits aux particuliers, aux PME et aux entreprises et de la gestion de fortune. Ça me semble une très belle initiative de Londres.
Bien, alors là encore, vous êtes sur le chemin de l'optimisme, puisque les choses vont dans le bon sens. Rien n'est encore complètement réglé, mais les choses vont dans le bon sens. Alors j'ai retrouvé ce passage qui m'avait frappé, et on terminera là-dessus, en page 186. Ce n'est pas seulement l'Amérique qui est menacée, c'est le fluide mondial qui est susceptible d'être pollué. Là encore, les États-Unis ont, avec très peu d'autres nations, une avance extraordinaire, susceptible de leur assurer dans la mondialité une présence essentielle, non plus comme gendarme du monde, mais comme agent hygiénique en chef. Voilà la formule que je trouvais particulièrement illustrative de l'esprit de cet ouvrage absolument remarquable, dont je rappelle le titre « Où va l'Amérique d'Obama ? Un diagnostic sévère mais optimiste » selon Alexandre Adler par Hervé de Carmois chez PUF, de 189 pages, 18 euros. Cher Hervé, c'était un grand plaisir de vous recevoir.
Merci de votre confiance.